As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
Hey, Frank, a little birdie told me you don't need a satellite dish to get DirecTV.
What's little birdie?
Was it Jimmy the Sparrow?
It's a figure of speech. Point is, you can stream DirecTV over the internet now.
Oh, sure. Next you're going to tell me those big birds are made of metal and filled with people, right?
You mean airplanes?
Stream DirecTV without a satellite dish. Call 1-800-DIRECTV. Terms or restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast préféré portant sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin et en ce mercredi 19 mai, hein, vous remarquerez que la date est différente, mais c'est un cas de force majeure puisque dans 24 heures, c'est le début de la série canadien Maple Leafs. Je suis en compagnie, comme toujours, de Arpin Basu. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine.
Excité. Fébrile. Oui, fébrile. Ben oui, écoute, après une Absolument. Semaine, là. Après une semaine d'attente.
Ça, une semaine d'attente, une semaine de survolter, disons. T'sais, la situation a vraiment fait en sorte que je pense que toute la public qui suit le Canadien a eu une semaine à stresser ouais. Toutes sortes de choses. Puis il y a eu beaucoup de choses. Alors on va en parler aujourd'hui.
Absolument. Mais avant qu'on se lance sur la préparation de cette série-là, la mise en bouche de cette série-là, je voulais simplement tout de suite, d'entrée de jeu, aviser nos auditeurs que pour les prochains épisodes, on va changer de format au Super Athlétique. Ce qu'on va faire, au lieu d'avoir un podcast par semaine, dans les prochaines semaines, on va faire un mini-podcast après tous les matchs du Canadien. Et ce qu'on va faire pour ça, donc ça va être un podcast qui va être bilingue. Il va y avoir une première moitié en anglais qui va durer une dizaine de minutes. Un autre 10 minutes en français par la suite. Et ces podcasts-là vont être diffusés sur la page YouTube de The Athletic. Et puis, donc, vous pourrez voir nos petites faces de schnappant durant nos podcasts. Et puis, ils vont avoir lieu. Ils vont être donc en direct, diffusés. Grosso modo, environ entre 30 et 40 minutes après la fin des matchs, le temps que nous, on termine nos disponibilités médias avec les joueurs et avec Dominique Ducharme. Donc, soyez au rendez-vous. On va faire ça à partir donc de demain soir, jeudi, pour le premier match, sur la page The Athletic de YouTube. Ne manquez pas ça, soyez au rendez-vous.
Et juste en passant, juste par après... Si vous manquez la diffusion en direct sur YouTube, les podcasts vont être disponibles sur les différentes plateformes d'habitude où tu vas chercher le podcast ou l'application Athletic ou Apple ou Spotify. Alors, ça va être disponible là par après en forme audio, évidemment. si vous manquez la diffusion en direct après les matchs. Alors, le lendemain de chaque match, si tu veux avoir une petite discussion, une petite analyse de ce qui vient de se passer dans le match précédent, ça va être là pour vous écouter n'importe quand.
Exact. Donc, facile à trouver en plusieurs endroits. Le seul endroit, si jamais vous ne pouvez pas le trouver, c'est parce que vous magasinez chez Steinberg, chez Distribution Consommateur ou bien chez Radio Shack. Alors, Arpin...
Distribution Consommateur, là. Honnêtement, ça me manque beaucoup, là. J'ai passé beaucoup de ma jeunesse en regardant le catalogue et toutes les choses que j'avais pas les moyens d'acheter, mais c'est ça. Bon.
On rentrera pas dans les catalogues que je regardais. OK. Alors, donc, demain soir, début de la série, évidemment, tout le monde donne les Leafs grands favoris. Le feedback qu'on reçoit en provenance de Toronto, on reçoit des commentaires un peu trolls de la part des amateurs, des fans des Maple Leafs. Il semble y avoir beaucoup de confiance du côté des Maple Leafs, du côté de la ville de Toronto, par rapport à leur chance de battre le Canadien. Dans quelle mesure c'est justifié? Est-ce que tu sens qu'il n'y aurait pas un risque du côté du Maple Leafs d'avoir un surplus de confiance? Parce que tu sens que, tu sais, on se dit à chaque année, il n'y a aucune chance que cette équipe-là cause une surprise, mais il y a des surprises à chaque année. Puis, bon an, mal an, même les équipes qui sont les plus négligées ont toujours, au bas mot, un 30% de chance de gagner.
Oui, absolument. Puis, effectivement, notre Dom Lucician donne à peu près ça aux Canadiens. Je pense que c'est même 24 ou quelque chose. En tout cas, c'est en bas de 30%. Et en regardant les chiffres, c'est justifiable. Si tu parles du surplus de confiance, je pense que la ville de Toronto a peut-être un surplus de confiance, mais je m'en doute que les Maple Leafs eux-mêmes ont un surplus de confiance. Je pense qu'ils reconnaissent à quel point le Canadien peut jouer avec eux en plein santé. Sur 10 matchs, 5 se sont terminés avec une marge d'un but. Il y a eu quelques... Je pense, en général, le Canadien a démontré une capacité de jouer avec les Maple Leafs, mais aussi que, je pense, le style que le Canadien va jouer en série va être un peu différent de ce qu'on a vu en saison régulière, même en début de saison. On entend tellement... Il y a tellement de questions du Canadien. Comment est-ce que vous pourriez retrouver la forme que vous avez eue au début de saison quand vous avez eu l'air si dominant? C'est pas ça le but, là. C'est le but du Canadien, parce que le hockey qui se jouait en janvier, là, sans match préparatif, avec un camp d'entraînement extrêmement court, c'était pas du hockey des séries, c'était loin de là. Je pense que Byron l'a qualifié comme sloppy. Alors, et je pense que c'était un bon terme à utiliser. Puis dans ce jeu sloppy-là, le Canadien a pu performer. Mais dans le style serré qu'on va voir, ça va être intéressant de voir à quel point le Canadien est capable de contrôler en quelque sorte Austin Matthews et Mitch Marner, mais aussi comment ils pourraient s'imposer physiquement. Mais pour revenir à ton point, je pense que les Maple Leafs sont reconnaissants de cette réalité-là, que les Canadiens ne sont peut-être pas à leur niveau, et je ne crois pas qu'ils le sont en termes d'habileté, en termes même de profondeur, de talent. Les Leafs, leurs meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs de la série, puis il y en a plusieurs qui sont peut-être un peu sous-estimés ici à Montréal, mais je trouve que je pense que leur bord, ils doivent savoir que le Canadien, ça serait pas un adversaire facile, et s'ils croient ça, ben je pense qu'ils vont voir jeudi soir que ça serait pas le cas, mais je suis convaincu que c'est pas comme ça que les Maple Leafs abordent la série, là.
Non, absolument. Écoute, sans compter que du côté des Maple Leafs, il y a tellement un long historique. Je suis certain que l'année dernière, il y avait la même impression de confiance du fait que les Leafs entraient en séries éliminatoires en se disant on est une équipe avec une très bonne force de frappe, ça devrait fonctionner notre affaire. Puis jusqu'à maintenant, année après année, ils s'enfargent en première ronde. S'il fallait que le Canadien gagne le premier match et instaure ce doute-là, la pression pourrait rapidement monter du côté des Maple Leafs. pour dire ah non, pas encore une fois, là, on est encore pris avec nos vieilles bébites qui font en sorte que peu importe la qualité de notre saison régulière, peu importe combien de buts nos meilleurs joueurs marquent ou quel gardien fait la différence en saison régulière, on a encore les mêmes démons qui reviennent nous hanter rendus en séries éliminatoires. Je pense que ça rendrait vraiment service aux Canadiens s'il y avait un peu de cette impression-là qui s'installait. Mais tu as tout à fait raison quand tu dis que les Leafs ont l'impression que le Canadien peut jouer avec eux. Parce que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a une grosse différence entre... tu sais, ils ont joué 10 matchs les uns contre les autres là, au courant de la saison. Et je trouve qu'il y a une grosse différence entre les 5 premiers matchs puis les 5 derniers. C'est-à-dire que en première moitié de saison, c'est vrai que le jeu était plus ouvert puis qu'on veut pas que le Canadien retourne à cette... à son objectif du début de saison parce que c'était du jeu qui ne correspond pas à ce qui se joue aujourd'hui. Sauf que c'était aussi un alignement beaucoup plus complet du côté du Canadien alors que c'était un alignement en fin de saison là, quand il y a eu là, quatre matchs quand même assez rapprochés contre les Leafs qui est assez diminué et qui reflète probablement pas ce que le Canadien va être en mesure d'offrir aux Leafs à compter de demain soir. Mais si tu regardes, les 6 premiers matchs, OK? Donc, si on coupe ça là, avant le blitz de fin de saison, les 6 premiers matchs, le Canadien, que ce soit en termes de pourcentage de tir, de tentative de tir, de chances de marquer, les buts marqués, les buts attendus, tous ces facteurs-là, toutes ces unités de mesure-là étaient kiff-kiff entre les deux équipes. Du moins, je parle à 5 contre 5. Donc, je me dis, si le Canadien est capable de soutirer le maximum de ce qu'il peut avec une équipe en pleine santé, ben, ça sera peut-être pas aussi facile qu'on l'imagine pour les Leafs.
Oui, effectivement. Puis je pense que c'est clair, le Canadien va tenter de rendre ça très inconfortable pour les meilleurs joueurs des Leafs en particulier, mais pour les Leafs en général. Les Leafs sont pas des... T'sais, ils n'ont pas des joueurs qui peuvent vraiment cibler. Peut-être Nick Suzuki vont tenter de le faire. Est-ce que tu vas vraiment te mettre comme plan de match d'aller déranger Philippe Danault, t'sais, ou Brendan Gallagher? C'est pas des gars qui se dérangent facilement. Puis il me semble que ça ne vaut pas vraiment la peine du côté des Leafs. Mais le Canadien, c'est clair que chaque fois que Matthews, Marner, Tavares, Nylander touchent la glace, il va avoir quelqu'un dans leur face, il va avoir quelqu'un qui est en train de les frapper. Et c'est quelque chose que... Il y a un effet cumulatif à ça que le Canadien va espérer que... va leur donner un certain bénéfice le plus que la série avance. C'est pour ça que je suis un peu... je dirais curieux de voir ou savoir pourquoi Dominique Ducharme a décidé de départir ses défenseurs de façon qu'on l'a vu à l'entraînement aujourd'hui et mardi aussi, avec Shea Weber qui n'est pas avec Ben Sherratt. Ça me surprend beaucoup parce que effectivement, il me semblait que c'était deux gars qu'il allait utiliser à profusion au moins autant que possible sur la route contre Matthews et Marner pour effectivement faire ce que je viens de mentionner, d'administrer cet aspect physique, de faire en sorte que ces deux gars-là soient inconfortables. Mais avec Shea Weber qui joue avec John Merrill, Joel Edmondson qui reste avec Jeff Petrie, puis Ben Sherratt avec Brett Kulak, c'est peut-être une meilleure répartition sur trois paires qui fait en sorte que peut-être les minutes vont être un peu mieux partagées. Mais moi, j'avais trouvé, aussitôt qu'on savait que les Leafs étaient l'adversaire du Canadien, moi, je croyais, puis je crois toujours, en fait, qu'il fallait que le Canadien utilise leur profondeur en attaque, mais qu'ils misent vraiment sur leur top 4 en défense d'une façon assez significative où tu joues tes deux premières paires 25 minutes par match, puis tu laisses 10 minutes pour l'autre. Là, c'est vraiment comme ça que je pensais que le Canadien avait les meilleures chances. Alors, je suis un peu surpris de voir la façon que Dominique Ducharme voit ça aussi. Peut-être la santé de Shea Weber a quelque chose à jouer là-dedans, mais je crois vraiment pas. Je pense qu'il veut effectivement utiliser son profondeur partout dans l'alignement, non seulement à l'attaque, mais même en défense où pour être bien honnête, il n'y a pas beaucoup de profondeur là. Alors, je sais pas, je suis très curieux de voir comment ça va fonctionner de la façon que c'est organisé en ce moment, mais je trouve que c'est une des choses que Dominique Ducharme espère faire que j'aurais fait un peu différemment.
Ouais, moi aussi, ça m'étonne. Et spontanément, je vais dans la direction de dire que le Canadien va essayer de gérer un peu les minutes de Shea Weber et de voir est-ce qu'il y a une formule que l'équipe peut emprunter à tout le moins dans le premier match où on peut limiter l'utilisation de Shea Weber et tant et aussi longtemps que le Canadien ne tire pas de l'arrière ou ne se retrouve pas dans le trouble, est-ce qu'il est capable de rester à flot avec trois duos défensifs qui sont conçus comme ça? Cela étant dit, le Canadien n'aura pas le dernier changement. Si Matthews et Marner se retrouvent sur la glace contre Kulak et Sherrod, ou encore contre Merrill et Weber, il me semble que c'est deux duos qui sont pas tout à fait à la hauteur.
Non.
Le duo Kulak-Sherrod ensemble, ça a été une expérience plus ou moins intéressante. J'ai beaucoup aimé la fin de saison de Sherrod, puis il m'a agréablement surpris à droite. C'est drôle parce qu'à partir du moment, dès le moment où Weber s'est blessé, on a l'impression que c'est un autre Ben Sherrod qui est sorti plus dynamique offensivement, puis il a bien fini. Mais au niveau des résultats, au niveau de la façon dont les chances étaient réparties, puis où l'action se déroulait, ça n'a pas super bien été pour ce duo-là. Alors là, tu leur mets les gros canons des Leafs dans les pattes. C'est quand même une proposition un petit peu audacieuse. Puis honnêtement, on peut dire que là, pour l'instant, l'âge de Alexander Romanov ou son manque d'expérience a eu raison de lui. C'est pas John Merrill qui lui a volé son poste par du hockey extraordinaire non plus. Fait que j'ai vraiment tendance à dire que oui, on répartit le temps de glace, mais ça, il faut que ce soit à cause de l'état de santé de chez Weber, parce que sinon, puis peut-être que lui, il va se dire, il va se tourner vers son coach un moment donné, puis dire, OK, regarde, je me sens super bien, let's go, donne-moi en plus. Mais je trouve ça étonnamment prudent comme façon de fonctionner. Puis cet excès de prudence-là est en même temps un risque à cause des confrontations qui vont survenir.
Ben oui, je suis d'accord, parce que dans le fond, si tu vas avec un top 4 de Sherrod, Weber, Edmondson, Petrie, ça donne deux duos de défenseurs que tu peux utiliser quasiment pour 100% des mises en jeu. T'sais, tu peux tout le temps commencer une mise en jeu avec un de ces deux paires-là, puis donner le troisième paire, tu peux changer ça pendant le jeu. Tu n'as pas besoin de les mettre sur la glace quand tu ne sais pas ce qui s'en vient des Maple Leafs. Alors, mais la façon que c'est fait maintenant, je suis d'accord que si Merrill et Weber ou Kulak et Sherrod se retrouvent sur la glace pour une mise en jeu, puis là, Sheldon Keefe dit OK, ben vas-y, Matthews Marner, on y va. Là, oui, c'est vrai que la façon que c'est fait maintenant, t'as au moins comme un gars solide sur chaque paire, là, puis peut-être qu'il y a une valeur là-dedans, mais il me semble que. Avoir un gars qui est un peu moins solide sur chacun de ces deux paires-là fait en sorte que ça leur rend vulnérable là, si un des deux gros trios des Leafs saute sur la glace par après. Là. Il me semble que tu étais mieux protégé avec le top 4 qui était loadé, puis une troisième paire qui était un peu plus mince, un peu plus faible. Mais tu sais, Dominique Ducharme l'a vu dans le bulle, il n'était pas l'entraîneur-chef, mais il était derrière le banc quand le Canadien était capable d'utiliser leurs trois défenseurs, Petrie, Sherrod et Weber, puis un peu mixer et matcher les trois autres. Là, c'était souvent ça qu'on a vu en série l'année passée. Ça fonctionnait. Weber et Sherrod ont performé très bien. Je comprends que leur saison, cette saison, était pas super avant que Sherrod se blesse, puis par après, Weber se blesse. En fait, pas super, c'est un peu généreux. Là. C'était mauvais, carrément, pendant un bon bout de temps. Mais c'était quand même une valeur en série qui était quasiment sûr pour cette équipe-là. Alors, c'est pour ça que je trouve ça un peu surprenant. Peut-être Ducharme se fie sur, effectivement, ce passage au vide ou ce passage difficile pour ce duo-là en saison régulière pour dire que c'est pas la meilleure façon d'y aller. Mais je pensais qu'il allait au moins l'essayer au premier match de la série.
Oui, absolument. Mais tu sais, c'est là que tu vois aussi, hein, si le Canadien avait pu répartir le temps d'utilisation, même durant la saison régulière, de façon plus équitable sur ces trois duos. Ça aurait été intéressant parce que, justement, ça aurait peut-être permis de ne pas surtaxer chez Weber. Mais c'est là que tu vois qu'à la date limite des transactions, l'acquisition de gars comme Merrill ou Gustafsson, c'est pas comme les Panthers de la Floride qui sont allés chercher Brandon Montour, tu sais. Tu vas chercher un gars qui aurait vraiment pu aider ton troisième duo puis l'élever pour en faire presque un deuxième duo. Là, tu dis, OK, on a des atouts avec lesquels fonctionner qui vont faire en sorte que on a cinq bons défenseurs avec lesquels on est capable de rouler puis on est à l'aise d'avoir notre troisième paire contre à peu près n'importe qui. Tu sais, à l'attaque, Dominique Ducharme dit souvent ça. Il dit, on veut jouer d'une certaine manière où peu importe qui se retrouve sur la glace, on va être à l'aise avec toutes les confrontations. Et je pense qu'il y a un peu de cet esprit-là en attaque, mais en défense, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas arrivés à cet équilibre-là. Puis je ne pense pas que ce soit l'acquisition des deux nouveaux défenseurs qui ait changé quoi que ce soit à ce niveau-là.
Cela, je suis d'accord. Mais une chose que je dirais, Gustafsson, je n'ai aucune idée pourquoi les Canadiens ont fait cet échange-là. Je ne savais pas au moment. Je sais encore moins maintenant. Je comprends pas. Ça a entamé un paquet de problèmes en termes de gestion de plafond salarial, en termes de gestion des rappels, toutes sortes de choses. Il y a une histoire racontée là. C'est assez clair que le Canadien tentait de faire quelque chose d'autre. Puis Gustafsson, c'était un plan B, sinon C ou D. Et que Marc Bergevin sentait l'obligation de faire quelque chose vu que son plan A, que ce soit, ça a été, je ne sais pas, mais son plat a coulé dans l'eau, puis il fallait faire quelque chose. Alors, dernière minute, il a ajouté Gustafsson. C'était pas un bon move. En termes de Merrill a joué mieux avec Détroit cette saison que ce qu'on a vu avec les Canadiens à date.
Oui.
Alors, de ce point-là, j'apprécie d'une certaine façon que Tony Duchamp est capable de faire l'évaluation de John Merrill sur l'ensemble de son œuvre, de sa saison. Tu sais, c'est pas juste ce qu'il a fait après un échange, après une semaine de quarantaine, en arrivant avec une équipe où il s'entraînait quasiment jamais, où il jouait plus qu'un match par deux jours, à un rythme ridicule où l'adaptation était très difficile en termes de leur style de jeu, en termes de leur système, en termes des choses, des décisions qu'il doit prendre dans certaines situations, puis que là, il y a eu ce temps-là. Alors, je comprends d'une certaine mesure que Dominique Ducharme s'attend à ce qu'on voit le John Merrill qui a joué si bien à Détroit cette saison et qui a fait en sorte que les Canadiens sont allés le chercher. Là, parce que c'était pas nécessairement un mauvais... Ils n'ont pas nécessairement ciblé le mauvais gars. Il a juste très mal joué depuis qu'il est arrivé. Même chose, d'une certaine façon, avec Eric Staal.
Ben oui, profitons-en donc pour faire...
la différence avec Eric Staal, c'est qu'il n'y avait rien démontré à Buffalo non plus. Là. C'est Eric Staal, c'est vraiment l'année passée, l'année d'avant, sur lequel le Canadien se fiait quand ils sont allés le chercher. Et ça ne me surprendrait pas s'ils ont essayé de faire son acquisition à un moment... Acquisition à un moment donné au cours des deux dernières années.
L'accusation, ça, les partisans sont en train de s'en occuper.
Oui, c'est ça, exact. Et puis, mais je dirais que Eric Staal n'est pas nécessairement un mauvais joueur de hockey. C'est clair que ses meilleures années sont derrière lui, mais que peut-être cette semaine-là lui permet aussi la même chose que je viens d'en parler avec Merrill. Et c'est quelque chose que Dominique Ducharme lui-même a mentionné. Et je trouvais que c'était pas mauvais comme point là, que ces gars-là ont jamais eu le temps nécessaire pour s'ajuster à une nouvelle équipe. Mais ceci étant dit, quand on parle de John Merrill et Eric Staal, il faut en parler des gars qui jouent pas à cause de ces deux gars-là.
Oui.
Comment as-tu vu la semaine du Canadien? J'appelle ça la semaine des gilets gris. c'était toute une affaire avec Jesperi Kotkaniemi et Cole Caulfield qui étaient vêtus en gris dès le premier jour d'entraînement samedi. Et que là, récemment, on a appris que Alexander Romanov non plus ne jouera pas au premier match, en profit d'un gars comme Merrill et aussi en profit d'un gars comme Brett Kulak. Il ne faut pas l'oublier que lui aussi, il a joué assez bien pour forcer cette décision-là. Et surtout, Eric Stahl, au lieu d'Jesperi Kotkaniemi, est quelqu'un comme Yoel Armia au lieu de Cole Caulfield à côté de Nick Suzuki et Tyler Toffoli. Comment t'as digéré ça et comment t'as digéré la réaction que ça a causé un peu partout? Là?
Ouais. Bon, OK. Tout d'abord, je vais commencer avec la question vestimentaire, les gilets gris. Là. Je trouve que le fait juste de les mettre dans les gilets gris, ça les isolait dès le départ. Au simple point de vue visuel, c'est comme... On envoie un message simplement par la couleur de votre chandail. Xavier Ouellet, Eric Gustafson, ils n'ont pas porté de chandail de couleurs différentes, même si ils étaient à l'entraînement, puis c'était clair qu'ils n'allaient pas jouer. Uh-huh. Alors, c'est...
Pourquoi tu penses qu'il a fait ça, là? Parce que c'est un bon point. Il n'avait pas besoin de faire ça, mais il l'a fait.
Non, il l'a fait. Alors, pourquoi? Ben, je pense... écoute, c'est une bonne question. J'oserais pas risquer une réponse parce que si c'était pour rendre ses intentions claires, et elles l'ont été, puis il ne s'est pas défilé, Dominique Ducharme a répondu à chacune de ses questions, puis à chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus définitif par rapport à la façon qu'il approchait cette situation-là. Peut-être que c'était une façon, justement, dès le départ, de dire, bon, ben, je vous ouvre mon jeu dès le début, puis comme ça, tout le monde va savoir à quoi s'en tenir. La réaction des fans à l'égard de Cole Caulfield ne me surprend aucunement. Je sais que la majorité des gens, étant donné qu'ils sont emballés par le fait qu'il soit un joueur excitant, le fait qu'il ait marqué des buts rapidement à son arrivée avec le Canadien et que le Canadien, en corollaire de tout ça, avait de la difficulté à marquer des buts dans les dernières semaines, tu te dis, ben, pour une équipe qui a de la misère à scorer, de se tourner vers Cole Caulfield, ça fait partie de la solution, ça n'a pas de bon sens qu'il ne soit pas dans l'alignement. Moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il ne soit pas dans la formation pour commencer la série, donc j'étais aucunement surpris. Pour moi, le dilemme, ce qui m'a davantage surpris, c'est Jesperi Kotkaniemi. Il est probablement, je ne sais pas si on peut dire qu'il est victime du nombre, parce que je l'ai écrit dans un récent texte sur Athletic. C'est pas le fait que Stahl soit dans l'alignement qui me surprend. C'est le fait qu'on ait retiré Kotkaniemi. Parce que Stahl, c'est un joueur de centre. T'as jamais trop de joueurs de centre dans ton alignement en séries éliminatoires. Puis tu te dis, ben, le Canadien est allé le chercher pour ça. Sinon, écoute, c'était un peu télégraphié qu'il allait se retrouver dans la formation au départ. Sauf que moi, là où ça m'a embêté un petit peu, c'est que je me dis, Kotkaniemi a connu une fin de saison difficile. Il a une occasion de pouvoir tourner la page, que ce soit de repartir sur des nouvelles bases, que ce soit l'occasion d'une nouvelle saison, comme le veut le cliché, et puis qu'il se remette peut-être en contact avec le Kéké de l'année dernière ou dans la bulle. Dans un contexte de haute pression, il a très bien performé. Wow. Puis je me disais, ben, si on lui donne la chance de se reprendre tout de suite puis de repartir sur des nouvelles bases dès maintenant, au moment où sa confiance est basse, ben là, tu arrives dès le premier jour, tu dis, OK, le kid, on oublie les dernières semaines, on comprend que tu as été ballotté d'un trio à l'autre, que toi, tu as traversé des moments difficiles, ça a été... Bon, mais on repart à zéro. Voici tes line mates, puis vas-y le kid. En lui donnant une semaine complète sur ce ton-là, lui, il aurait pu se rebâtir. Puis arriver au premier match en étant gonflé à bloc, dit bon, ben, je vais montrer à tout le monde de quoi je suis capable, puis c'est vrai que je peux repartir à zéro. Là, c'est un autre type de défi qu'il lui a envoyé dans les pattes. Évidemment, nous, on n'est pas dans les bureaux, on ne sait pas de quelle manière Dominique Ducharme lui a présenté ça, et ça se peut très bien qu'au point de vue émotif, au point de vue où Kéké en était psychologiquement, c'est de ça qu'il avait besoin, puis ça, honnêtement, on ne peut pas le deviner. Sauf que de la manière que je le regarde de l'extérieur, je me dis, il n'y a jamais rien de mal à donner un vote de confiance à un jeune joueur puis à lui témoigner de la confiance. Alors, ça, c'est l'aspect où j'aurais préféré voir Kotkaniemi dans l'alignement dès le début. Caulfield, ça ne me surprend pas du tout, mais ça a été clair du côté de Ducharme, on va voir l'un et l'autre à un moment donné ou l'autre durant la série.
Oui, je suis d'accord. Je pense que j'aurais abordé ça de la même façon. Mais c'est ça, j'ai écrit quelque chose qui est apparu mercredi matin en essayant de comprendre un peu la logique de Ducharme dans tout ça. Puis il y a une chose que j'avais pas considérée avant, c'est... Il y a deux choses, en fait. A, Dominique Ducharme s'attend à avoir recours à 14 attaquants à un moment donné. Alors, ça veut dire les 12 qui sont là, plus Scott Kiemy et Caulfield. Il dit qu'il faut toujours se profiter du profondeur de l'équipe. C'est ça la force du Canadien. Alors, ceci étant dit, il me semble que ce qu'il essaie de faire, c'est d'avoir des munitions en banque qui peut avoir vraiment un impact dans la série, plus tard dans la série, en leur donnant la chance de regarder un match, de voir comment ça se déroule, c'est quoi le rythme, c'est quoi la vitesse du jeu, c'est quoi l'intensité, c'est quoi l'aspect physique, toutes ces choses-là. Ils vont avoir une bonne siège à l'Arena Scotiabank, vu qu'il n'y a personne là, pour être capable de voir tout ça. Puis je pense que dans le cas de Kokinimi, c'est aussi pour lui montrer que c'est pas la même chose que la bulle l'année passée. Ça va pas être la même chose. Et Dominique Ducharme l'a dit en répétition que la bulle de l'année passée, c'était plus comme un début de saison qui était un peu plus intense que d'habitude, mais c'est quand même pas ce qu'on va voir en série là, après une saison pas complète, mais une saison qui était quand même assez exigeante. Et que les exigences de cette saison-là ont commencé à le voir dans le jeu de Kokinimi à un moment donné. Alors, donner à ces deux gars-là, et même à Romanov, de voir ce qui se passe, de voir toutes les choses qu'il faut faire pour remporter un match comme ça, leur donne la chance de rentrer dans l'alignement et de remplacer peut-être un joueur vétéran. Alors, s'il avait fait l'inverse, tu sais, on parle de la confiance de Kokinimi, disons qu'il a fait ça, il a dit à Kokinimi toute la saison, voici, toi t'es là, voici tes linemates, tout ça, blablabla, tout ce que tu viens de dire. Et Kokinimi joue le premier match, puis il est pas bon. Puis il joue comme il a joué en fin de saison. Puis là, il faut le remplacer avec, disons, Eric Staal, ou disons, tu sais, whoever, quelqu'un qui jouait pas à cause du fait que lui était dans l'alignement. Là, tu viens vraiment détruire cette confiance-là. Là, tu viens d'enlever quelque chose de lui. Tandis que la façon qu'il l'a fait, c'est comme si tu donnes quelque chose à Kokinimi. C'est comme si tu donnes la chance de « OK, là, je sens que tu es prêt, j'ai besoin de toi, vas-y, va faire une différence, va aider l'équipe de cette façon-là. » Et c'est plus facile, à mon avis en tout cas, de dire à un vétéran « Écoute, il faut faire une place pour Kokinimi, je vais t'asseoir ce soir, tu joueras pas. » Un vétéran ne serait pas complètement détruit. Ce ne serait pas quelque chose qu'il va falloir rebâtir un certain niveau de confiance ou une certaine... Je ne sais même pas. Mais il me semble que ça serait plus facile pour un vétéran d'accepter quelque chose comme ça qu'un jeune joueur qui venait de jouer un premier match de la série, puis par après se fait dire que non, tu n'étais pas assez bon, il faut s'asseoir. Tu sais, ça serait peut-être un peu plus difficile pour lui. Alors, c'est ça. Tu sais, je ne suis pas d'accord avec la logique de Dominique Ducharme. Moi, je jouerais chacun des trois jeunes qui ne jouera pas le premier match. Mais le plus que j'y pensais, le plus que je voyais un peu la logique dans tout ça, et que s'il s'attend à utiliser tout son monde, tant mieux si c'est les jeunes qui arrivent plus tard que s'il y avait des vétérans qui arrivaient plus tard, là, parce que je pense que les jeunes peuvent avoir plus d'impact et je pense qu'ils vont bénéficier de regarder le premier match et voir comment ça se passe.
Ouais, ouais, mais sais-tu quoi, t'apportes un excellent point par rapport au... Qu'est-ce qui est le plus risqué ou qu'est-ce qui est potentiellement le plus dommageable, tu sais, entre entrer KK dans le deuxième, dans le troisième, quatrième match, ou bien le faire amorcer la série, les choses ne fonctionnent pas, puis une fois qu'il est sorti, tu sais, quel est le travail à faire pour le replacer de manière à ce qu'il puisse rentrer de nouveau par la suite? C'est un travail qui est probablement plus compliqué. Tandis que là, tu sais, peut-être qu'Eric Staal, dans le fond, il est juste là pour aider à calmer le jeu au départ, dans les deux premiers matchs. Puis à un moment donné, là, si le jeu continue de la manière dont on l'a vu dans les dernières semaines, Eric Staal, il approche de la fin de parcours, là, puis il va être le joueur le plus vulnérable, l'attaquant le plus vulnérable à être retranché. Puisque on a pas, tu mentionnais le nom d'Armia plus tôt. Pendant la majorité de la saison, on considérait des gars comme Byron et Lekkonen comme étant vulnérables, ou le jeune Evans également. Mais tous ces gars-là, c'est des gars qui jouent en infériorité numérique. Fait que si t'as un de ces alliés-là pour rentrer Caulfield ou rentrer Kotkaniemi, tu viens te priver d'un gars qui joue en infériorité numérique. Puis je pense que c'est pas dans le plan de match du Canadien. Eric Staal demeure, à mon avis, le gars le plus vulnérable.
Ouais. Puis c'est bien que tu mentionnes les unités spéciales. Je pense que j'aimerais en parler. Alors, on va faire ça tout de suite après la pause.
Don't just ride the index. Seek to outperform it with Fidelity Active ETFs. Learn more at fidelity.com/active ETFs. Before investing in any exchange-traded fund, you should consider its investment objectives, risks, charges, and expenses. Contact Fidelity for a prospectus, an offering circular, or if available, a summary prospectus containing this information. Read it carefully. While active ETFs offer the potential to outperform an index, these products may more significantly trail an index as compared with passive ETFs. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC.
Bon, alors, tu as mentionné le rôle de Yoel Armia sur l'infériorité numérique, puis je pense que c'est un excellent point parce que il est vraiment bon, puis lui avec Paul Byron, puis Lekkonen avec Philippe Dano, ça représente vraiment deux paires d'attaquants qui sont très efficaces en infériorité numérique. Et les Maple Leafs, en fait, non seulement que leur avantage numérique ne fonctionne vraiment pas, mais ils sont quand même assez vulnérables à des buts en désavantage numérique. Puis avec Jake Evans qui est là dans le mix, dans la rotation aussi, je pense que les Canadiens ont des atouts en désavantage numérique pour peut-être tirer profit du fait que les Leafs manquent beaucoup de confiance en avantage numérique, particulièrement quand c'est Morgan Riley qui est sur la ligne bleue. Lui qui connaît vraiment pas mal de misère cette saison, je ne comprends vraiment pas comment tout d'un coup ce gars-là, quand l'équipe autour de lui est vraiment bon, lui, il a l'air d'avoir perdu ses repères. Mais je veux parler de l'avantage numérique parce qu'effectivement, Kotkaniemi et Caulfield, s'ils rentrent dans l'alignement, c'est clair qu'ils vont jouer sur la deuxième unité de l'avantage numérique qui, en ce moment, est vraiment pas spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose qui va vraiment faire peur aux Leafs, la façon non. dont. C'est qu'on s'est bâti en ce moment avec Weber, Armia, Tatar, Anderson et Staal.
Non, c'est qui est carrière là-dedans? Hein? C'est qui, c'est qui le maître d'œuvre?
Honnêtement, c'est probablement Thomas Tatar qui va prendre la rondelle, puis c'est lui qui va être chargé avec l'entrée de zone, j'imagine. Parce qu'après lui, il n'y a pas grand monde. Là. Il y a Eric Staal qui pourrait le faire peut-être, mais il n'y a pas vraiment la rapidité pour faire reculer les défenseurs ou la défensive des Leafs là, en infériorité. Alors non, il n'y a pas grand-chose là. Puis au moins, Dominique Ducharme était capable de le reconnaître puis dire qu'effectivement, l'autre unité va avoir beaucoup plus, peut-être pas beaucoup plus, mais va avoir plus de temps de glace que la deuxième unité. Mais si tu rentres Kotkaniemi et Caulfield sur cette unité-là, tout d'un coup, ça change pas mal. Kotkaniemi peut s'occuper des entrées de zone. Caulfield est là comme tireur. Il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent. Là. Mais c'est ça. Ça va être... C'est à quel point... Puis de voir ces deux gars-là qui a eu comme quelques minutes d'entraînement, c'était même pas un entraînement, c'était plus une c'est plus comme quelque chose... T'sais, avant l'entraînement de mardi, Alex Burrows est allé avec 10 gars sur l'autre glace, puis ils les ont juste placés sur la glace, puis ils passaient la rondelle. C'était comme s'ils montraient quelque chose qu'ils les avaient montré sur vidéo, puis ils voulaient le montrer sur la glace. Mais comme Kotkaniemi et Caulfield étaient là.
Oui.
Alors, à quel point tu penses-tu que ça va jouer dans la décision du Ducharme de choisir le bon moment pour rentrer ces gars-là, la façon dont l'unité de Suzuki performe en avantage numérique? Parce qu'il me semble que les deux sont très liés en ce moment.
Oui. Ben écoute, l'unité de Nick Suzuki, c'est celle qui a tiré le Canadien durant à peu près toute la saison. À chaque fois que le Canadien a eu des bons moments en supériorité numérique, Nick Suzuki était au cœur de ça. Le trio, en quelque sorte, qu'il formait avec Jeff Petrie, et puis Tyler Toffoli, ça a été le trio le plus efficace pour le Canadien cette année. Ça ressemble un peu au triangle de l'année dernière avec Suzuki, Petrie et Tatar. Mais là, dans ce cas-ci, Toffoli a remplacé Tatar. Et puis, Donc, il y a beaucoup de responsabilités qui reviennent sur les épaules de Nick Suzuki. Puis c'est drôle parce que là, tout le monde parle depuis le début de la semaine à quel point là, les jeunes n'ont pas sont pas dans le coup puis ils sont pas la saveur du mois chez le Canadien. Sauf que tu regardes du côté de Nick Suzuki, puis il y a énormément de responsabilités qui lui incombent. Évidemment, un poste de centre top 6. Et puis également d'être le maître d'œuvre de la première unité d'avantage numérique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités qui vont lui revenir, beaucoup de pression pour faire produire cet avantage numérique-là, parce que je ne m'attends pas à grand-chose de la deuxième unité. Maintenant, si l'attaque à 5 ne fonctionne pas, est-ce que ça va être suffisant pour faire rentrer Kotkaniemi ou Caulfield? Peut-être Caulfield, mais je ne pense pas que ce soit un facteur pour faire rentrer Kotkaniemi. Je pense que, parce que veut pas, la majorité du match reste à 5 contre 5, puis il faut que, tu sais, si tu décides d'entrer Kotkaniemi, ben c'est parce que tu veux aussi l'utiliser à force égale. Sauf que, il y a aussi qui tu places où. Je pense qu'il y a un beau casse-tête à faire, parce que, tu sais, si tu dis on va garder l'unité de Suzuki intacte avec donc Toffoli, avec Gallagher au milieu, ben là, tu te retrouves sur une deuxième unité où potentiellement tu pourrais avoir à la fois Tatar, Caulfield et Kotkaniemi. C'est trois gars. À ce que je sache, là, il y a deux cercles dans zone adverse. Il y a trois gars pour deux cercles. Là. Alors, est-ce qu'il y en a un qui monterait à la pointe? Est-ce qu'il y en a un qui se retrouverait devant le filet comme bumper? Je pense que ce serait intéressant. Moi honnêtement, tu sais, je viens de te parler du fait que du trio de l'année dernière de Petrie, Tatar et Suzuki. J'aimerais ça voir Tatar au sein de cette unité-là, quitte à placer Toffoli au milieu comme bumper, puis renvoyer Gallagher avec Kotkaniemi puis Caulfield sur une deuxième unité. Je pense que ça t'aura encore une unité meilleure que l'autre, mais la deuxième aurait quand même suffisamment de tonus. Tu sais. Alors, je pense que autant c'était clair quand il a sorti ces deux jeunes avec Frolic dans des habits gris, autant c'était clair le message qu'il envoyait par rapport à ses intentions pour le premier match, autant le petit moment que tu décris par rapport aux exercices en supériorité numérique nous envoie le message aussi qu'éventuellement, dans la série, on va les voir, Kotkaniemi puis Caulfield.
Oui, bien écoute, Charme l'a dit, là. Alors, je prends à sa parole, puis tu sais, j'étais intéressé à savoir, dans le fond, tu sais, c'est bien beau de dire, Dominique Duchamp peut bien dire, écoute, c'est un match, là, on part du match numéro un. C'est un match, on verra ce qui se passe après. Mais disons que le Canadien sort dans le premier match puis il gagne 4-1, puis que tous les trios vont bien, puis ben, peut-être pas tous les trios vont bien, mais tu sais, ils ont eu assez de bonnes performances là, de tout le monde qui ont permis cette belle victoire-là. Là, Dominique Duchamp est rendu dans une situation, ben on touche pas à une formation gagnante. Là. Tandis que, alors c'est pour ça que je l'ai demandé, est-ce qu'il croit en cette théorie-là, tu sais, qu'on dit que tu ne touches pas à une formation gagnante, puis je voulais savoir si c'était quelque chose dans lequel il croyait, puis il a dit non. Il a dit, écoute, ça dépend de quelle façon tu gagnes. Si tu gagnes, et il a dit si tu gagnes en jouant un match quasiment parfait, il n'y a aucune raison de faire des changements, mais à part ça, tu peux toujours trouver des façons de s'améliorer, de changer quelque chose, de faire des changements qui peuvent améliorer ton niveau de jeu encore plus. Parce qu'on s'entend que le résultat d'un match, il y a beaucoup d'hasard, un peu d'hasard et beaucoup de circonstances qui jouent là-dedans. T'sais, disons que, je sais pas, tu as comme trois avantages numériques en première période, tu en marques deux, puis that's it, tu décides qu'on va essayer de protéger cette avance de 2-0-là, puis tu gagnes 2-1, puis c'est pas exactement un modèle à suivre, c'est pas quelque chose que tu peux reproduire match après match. Alors dans ce cas-là, tu peux dire, OK, oui, on a gagné 2-1, mais il y a des choses qu'il faut améliorer dans notre jeu à 5-5. Alors, on va faire des changements. Ça prend un entraîneur qui est très confiant pour faire ça. C'est pas quelque chose que tu vois très souvent dans la Ligue nationale où une équipe remporte un match puis après fait des changements à l'alignement. C'est rare quand même. Alors, je vais être très intéressé à voir si Dominique Ducharme va être capable de faire ce qu'il a dit. Si c'est le premier match ou le deuxième match, le Canadien est capable de remporter un, mais qu'il y a un trio en particulier qui va peut-être un peu moins bien. Peut-être le trio du Star, on verra. Ou même peut-être Evans, on ne sait pas. s'il y a quelqu'un, s'il y a une certaine faiblesse que Ducharme est capable d'apercevoir, puis dire que, OK, là, je pense que Kotkaniemi peut nous améliorer là, ou Caulfield peut nous améliorer là, je vais le faire même si on a gagné. C'est ça qui va être le vrai test de tout ce que Dominique Ducharme a dit cette semaine-là.
Mais je veux dire, même si le Canadien gagne de manière relativement convaincante, pas parfaite, mais convaincante, il y a un élément que je peux déjà anticiper qui pourrait poser problème puis inciter au changement, puis c'est l'utilisation de Josh Anderson. Parce que là, qu'il se retrouve avec Corey Perry et Eric Staal sur un trio qui pourrait se retrouver à jouer moins de minutes, Anderson se retrouve perdant au change d'une certaine manière. C'est sûr qu'il est avec deux gars d'expérience, deux membres du Triple Gold Club, deux gars de gros gabarits, ils peuvent être intenses en échec avant et tout y quanti. Sauf que ce qu'on a vu de Josh Anderson toute la saison contre les Maple Leafs, c'est que c'était l'attaquant le plus intimidant que le Canadien avait à sa disposition pour affronter les Maple Leafs. C'est une carte super importante pour le Canadien. Il fait reculer la défense adverse, il a fait précipiter ses gestes. C'est un gars qui frappe, qui va vite, qui est capable de marquer des buts. Donc, c'est une carte importante dans le jeu du Canadien. Puis, en quelque sorte, elle est un peu gaspillée si tu te ramasses à jouer avec Eric Staal. Puis, tu te dis, ben là, je peux quand même pas utiliser Eric Staal 16 ou 17 minutes par match. Alors, ou bien, à un moment donné, on voit une inversion entre Armia et Anderson. C'est pas impossible. Anderson, Suzuki, Toffoli ensemble, ça n'a pas été une unité. Ils n'ont pas joué très souvent ensemble, mais quand ils ont joué ensemble, ça n'a pas été, étonnamment, pas très convaincant. Et Ducharme a été tellement encensé Yoel Armia plus tôt cette semaine que tu te dis, ben, il croit en lui et il va le laisser là. Mais je pense que Josh Anderson, c'est un élément où si tu cherches à maximiser son apport, c'est fort possible, peu importe le résultat du premier match, qu'on se dise après coup, ouais, ben, il y a peut-être moyen de l'utiliser pour aller en soutirer davantage de lui. Alors, je pense que moi, à vue de nez, avant même d'avoir vu le premier match, si je regarderais de ce côté-là.
Oui, puis effectivement, si jamais il veut insérer Caulfield dans l'alignement, il y a quand même un parcours assez facile pour le faire, et même Kotkaniemi, tu sais, disons qu'Eric Staal et Armia montrent que peut-être, s'ils n'ont pas leur meilleur match au premier match, tu peux toujours faire ce que tu viens de mentionner, mettre Anderson avec Suzuki et Toffoli, puis insérer Kotkaniemi et Caulfield sur le troisième trio avec Corey Perry à leur gauche. Ça se fait très bien, à mon avis. Là. Je sais que le match que Caulfield a joué avec Nick Suzuki, tout le monde s'est mis à s'épater un peu à cause du fait qu'ils ont bien joué dans un match qui n'avait aucune signification pour le Canadien, puis encore moins pour les Oilers. Là. C'était un match, vraiment, c'était comme un match sur un étang ou dans un parc. Il me semble que c'est une façon d'insérer ces deux gars-là qui vraiment rendrait le Canadien, tu sais, ça leur donnerait trois trios qui peut marquer des buts, légitimement, tu sais, c'est comme, je m'attends pas à beaucoup d'offensives de la part de la combinaison de Perry, Staal et Anderson. Je pense qu'ils vont être là pour jouer physique, robuste, appliquer des mises en échec, essayer de jouer en zone offensive en gardant la rondelle près de la bande, mais ça me surprendrait de voir beaucoup de buts de ces gars-là. Tout d'un coup, si tu rends ce trio-là à Perry, Kotkaniemi et Caulfield, là, je pense que tu as peut-être un peu de potentiel pour voir des buts d'un trio comme ça.
Ouais, mais probablement, ce que craint Dominique Ducharme, c'est que tu augmentes probablement la possibilité de voir des buts de l'adversaire aussi. Je ne sais
ouais,
pas, là.
Ouais, ouais,
il y a peut-être, tu sais, parce que Kotkaniemi a eu des hauts et des bas. Il y a des moments dans la saison où je disais, waouh, OK, il a vraiment fait du progrès défensivement, puis tu vois, ses instincts sont meilleurs, puis tu sais, il fait des bons replis au bon moment, tu sais, de la bonne pression arrière, puis il y a d'autres soirs, tu dis, hé, pas là, et on dit, au niveau du, ils disent en anglais, du awareness, là, il devient obnubilé par le porteur de la rondelle, puis il oublie de prendre l'information autour. Caulfield, il vient d'arriver, tu peux pas nécessairement lui en demander trop, puis je trouve que, tu sais, honnêtement, il fait un job correct, là, défensivement, c'est pas un boulet. Mais ça demeure quand même une combinaison qui, si elle ne marque pas, elle devient vulnérable, tu sais. Alors, mais en tout cas, écoute, ça va être intéressant de voir. Je suis certain, moi, ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est que si, bon, Dominique Ducharme semble s'être engagé à dire que même Caulfield allait jouer à un moment donné dans la série, moi, j'ai hâte de voir quel genre d'effet explosif il pourrait apporter. Puis, je vais te ramener en arrière parce que on est sensiblement du même âge, puis on a tous les deux vécu la Coupe Stanley de 1986. Mais Claude Lemieux, quand une recrue en 1986 qui débarque, qui joue quelques matchs avec le grand club l'année précédente, et là, il est arrivé en séries éliminatoires et immédiatement, il a fait une différence énorme dans la conquête de la Coupe Stanley du Canadien. Et j'ai l'impression que la présence de Claude Lemieux a marqué les amateurs du Canadien au fer rouge. Et depuis ce temps-là, on est toujours à la recherche de la recrue qui va sortir de nulle part, puis boum, faire une différence, puis être vraiment l'épice dont le Canadien a besoin en séries éliminatoires. Puis même, c'est difficile à trouver, mais j'ai l'impression que le souvenir de Claude Lemieux, puis j'entends encore Mario Tremblay hurler à la télévision quand Claude Lemieux s'écrase par terre après avoir marqué contre les Whalers de Hartford. Mais j'ai l'impression que ce moment-là fait en sorte qu'on a constamment cherché. Ouais, mais c'est qui le jeune qui pourrait venir nous aider puis agir en sauveur? Est-ce que ça va pouvoir être John Leclerc ou Paul Di Pietro, peu importe, ou n'importe qui, tu nommeras ceux qui se sont distingués après, là, qui sortaient de l'ombre. Mais je pense que il y a cet espoir-là, cette espérance-là avec Cole Caulfield, même si 9 fois sur 10, c'est pas ça qui va se passer. T'sais. Mais sait-on jamais, peut-être que cette année, ce serait le fun qu'on ait un moment Claude Lemieux avec Cole Caulfield.
Ça le serait, mais ça serait aussi le fun que le Canadien soit capable de le permettre, de mettre non seulement mettre Cole Caulfield dans l'alignement, mais le mettre dans l'alignement puis l'utiliser. Et puis pas avoir peur de ce qui pourrait se passer à cause du fait qu'il est un recrue. Pas avoir peur du négatif, mais avoir hâte au positif, avoir hâte au talent, au potentiel de marqueur qu'il a. Il me semble que cette organisation-là, là, il voit c'est toujours le verre à moitié vide. Là. C'est comme, c'est un recrue, il y a des choses à apprendre, il y a des responsabilités défensives, le jeu est plus dur, est-ce qu'il va être capable, blablabla. C'est jamais comme, wow, check ce jeune-là, il a plein de talent, il peut nous aider, il a un lancer qui peut marquer de n'importe où sur la glace, c'est quelque chose qui nous manque. On aimerait ça, avoir ça dans l'alignement. C'est jamais de cette façon-là, je trouve, que c'est abordé avec les jeunes joueurs du Canadien. C'est toujours l'autre côté. C'est toujours le côté négatif de ce qui pourrait arriver de négatif, au lieu de voir le potentiel positif de ça. Alors, si et quand, en fait, quand Cole Caulfield va rentrer dans l'alignement, parce que je suis convaincu qu'il va le faire, j'espère juste que Dominique Ducharme ne va pas se mettre à le cacher partout puis OK, donc, ben, tu ne feras aucune mise en jeu, on va juste te remplacer juste pour éviter les mauvaises confrontations et tout ça. Juste laisse le gars jouer. Laisse si Kotkimi, quand il rentre, laisse-le jouer. Arrête d'essayer de protéger tous ces jeunes-là puis fais leur confiance, mais d'une façon sincère, pas juste une façon qui est comme à moitié là. C'est ça que j'aimerais voir et c'est ça que, depuis trop longtemps dans cette organisation-là, on peut penser à Alex Galchenyuk, on peut penser à Piqué Subban à l'époque. Il y avait tellement de jeunes qu'au début, c'était pas leur talent qui comptait le plus, c'était ce qu'ils faisaient de moins bien qui était le plus important. Et ça serait le temps pour cette organisation-là de voir les bonnes choses, les bons côtés d'un jeune joueur au lieu de voir les mauvais côtés en premier.
Ouais, puis tu as raison. Puis ce que j'ajouterais par rapport à ça, c'est que non seulement on s'attarde à ce que le jeune joueur n'a pas encore, mais j'ai l'impression que parfois on oublie de tenir compte de ce que le vieux joueur qu'on lui préfère a perdu. Fait que là, tu dis le bout qui manque aux jeunes joueurs, est-ce qu'on est capable de reconnaître aussi que le vieux, de reconnaître le bout que lui n'a plus?
Ouais.
Je pense que Puis, tu sais, les deux côtés, on dirait que la grille d'évaluation n'est pas la même. Puis là où, puis je pense que là, c'est le gros intangible qui rentre en ligne de compte, c'est la fameuse expérience. Puis je voulais t'amener là-dessus. Là, le Canadien a ajouté Staal, avait ajouté auparavant Perry, Edmondson, Jake Allen, bon, y a tout un assortiment de vétérans. À quel moment est-ce que... À quel moment tu en as assez de l'expérience? À quel moment tu peux dire, OK, là, des gars qui vont servir à calmer le jeu, à faire en sorte que... Tu sais, des gars qui sont passés par là, qui reconnaissent les situations, qui sont capables de s'adapter, qui sont capables de ne pas s'emballer dans le moment, tout ce qu'on entend à propos de l'expérience. À quel moment tu as assez de ces gars-là pour pouvoir intégrer des jeunes, pour que tu aies assez de vétérans qui vont calmer des jeunes? Parce que j'ai l'impression que là, la mentalité, c'est de dire, ben, de l'expérience, on va juste en prendre. Puis ça vient un point où ça peut être au détriment des habiletés naturelles.
Ouais. Mais avec Staal, l'affaire, c'est que Staal, la plupart de son expérience des séries, il les a eues à quasiment ses deux premières saisons. T'sais, la première saison, sa saison recrue, il avait 18 ans, il n'a pas joué en série. Sa deuxième saison dans la Ligue nationale, il avait 20 ans parce qu'il avait le lockout l'année d'avant. Remporté la Coupe Stanley, la saison d'après, il a connu une bonne parcours en série. C'est 3 ans plus tard qu'il y a une bonne parcours en série, il s'est rendu en finale d'association. Et depuis ce temps-là, il n'a pas fait grand-chose, là. Honnêtement, il a joué en 11 ans. Il a joué 19 matchs en série en 11 ans. Puis il a 8 points dans ces 19 matchs-là. Là. Alors, je comprends la valeur de l'expérience. Je comprends la valeur d'avoir vécu des situations, d'avoir vécu de la pression, puis d'être capable de surmonter ça. Puis Eric Staal, il a fait plein d'autres choses dans sa carrière de joueur. Tu sais, jouer au niveau international, il a de l'expérience. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne l'a pas.
C'est un futur temps de la renommée.
Futur. Ouais. Ouais. Je suppose. Ouais.
C'est pas bon.
Peut-être. C'est ouais, pas peut-être. Mais peu importe. Le fait demeure qu'en 11 ans, c'est pas rien. Là. On parle de plus d'une décennie de sa carrière où il a joué 19 matchs en série, là, c'est pas beaucoup. Puis il y a eu 8 points dans ces 19 matchs-là. Là. Alors, c'est pas comme si c'est un gars avec un long parcours de bonne performance en séries éliminatoires. Il en a eu, c'est certain. L'année qu'ils ont remporté la Coupe Stanley, Eric Staal était un joueur important sur cette équipe-là, malgré le fait qu'il avait 21 ans ou 20 ans. Et était important en 2009 aussi, quand la Caroline s'est rendue en finale d'association. Mais depuis ce temps-là, il n'a pas eu beaucoup d'expérience en série et le peu d'expérience qu'il a eu, il n'a pas super bien performé. Alors, je peux acheter l'argument de l'expérience, mais il faut que ça soit de la bonne expérience. Et dans le cas de Staal, il me semble que ça fait très longtemps depuis qu'on a vu un Eric Staal qui faisait une différence en série, puis là, il est rendu à 36 ans. Alors, c'est quoi le valeur de l'expérience dans son cas à lui? Mais pour répondre à ta question, je suis entièrement d'accord. À un moment donné, t'en as assez de gars qui ont de l'expérience. T'as ajouté Joel Edmondson, c'était un bon ajout. Je l'avais critiqué à l'époque. Je pense que toi aussi, t'avais des doutes. Je pense que Joel Edmondson a prouvé cette saison que c'était une bonne acquisition, puis on verra en série, mais c'est surtout pour les séries que ce gars-là a été ajouté, pour ajouter cette expérience-là. Il y a Shea Weber qui est déjà là, Carey Price qui est déjà là, Corey Perry est là. Il y a des gars avec de l'expérience en série, là, Gallagher, t'en as. Je sais pas à quel point t'en as assez, là, parce que il me semble que la bonne chose à faire, c'est d'avoir un mélange d'expérience et de jeunesse. Et c'est ça que les meilleures équipes ont, puis la façon dont les Canadiens vont aborder cette série-là dans le premier match, il y a quasiment pas de jeunesse. Il y a Nick Suzuki, il y a Jake Evans, qui est quand même 24 ou 25 ans en ce moment, c'est un recrue, mais c'est un vieux recrue. Alors t'as vraiment juste Nick Suzuki qui représente le volet jeunesse de cette équipe-là qui serait dans l'alignement le premier match. Là.
Ouais. Écoute, tu as mentionné un nom, puis on va terminer avec lui. Tu as mentionné le nom de Carey Price. J'aimerais ça t'entendre sur ce à quoi tu t'attends de Carey Price. Mercredi matin à l'entraînement, il s'est fait battre sur un lancer. Il était hors de lui, il a cassé un bâton. Moi, j'aime ça voir ça.
Il était battu sur plusieurs lancers, en passant. Là, c'est juste le dernier d'une série de lancers qu'il a battu.
Oui, je présume que ça ne suffit pas un seul lancer pour lui faire le sortir de ses gonds, je comprends. Tu l'avais vu également dans un match du Rocket de Laval où il a été devant le filet pendant deux périodes. À quoi tu t'attends de Price face aux Maple Leafs? Écoute, je peux me permettre d'ajouter ceci. Dans un récent article cette semaine dans Athletic, notre journaliste de données, Dom Lechichin, qui ne donne pas cher de la peau du Canadien, on va se l'admettre, trouvait que le Canadien n'est pas nécessairement mieux outillé en ayant Carey Price devant le filet. Pourtant, en séries éliminatoires, peu importe ce qu'on peut dire à propos de Carey en saison régulière dans les dernières années, puis Dieu sait qu'il y a eu des bas, il y a eu plus de bas que de hauts, mais en série, il me semble qu'il est toujours là. Puis si le Canadien n'est pas allé plus loin, ça c'était pas à cause de lui. Beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas marqué de but. Mais il me semble que c'est un motif d'encouragement puis un motif d'espoir de l'avoir devant le filet, non?
Oui. Non, je m'attends à voir un Carey Price qui est Carey Price. Qui est la meilleure version de Carey Price, dans le fond. C'est parce que pour dire que Carey Price doit jouer comme Carey Price dans les dernières années, le problème, c'est qu'on ne sait pas à qui on fait référence quand on dit que Carey Price doit jouer comme Carey Price. Est-ce que c'est Carey Price qui, à chaque année, connaît un mois creux, puis ça met son équipe dans le pétrin, puis que lui a besoin de faire une réflexion, puis est-ce que c'est le Carey Price inconstant qu'on a vu en saison régulière depuis 4-5 ans, ou est-ce que c'est le Carey Price qu'on voit d'une façon quand même assez constante en série? J'avais fait la recherche depuis une décennie. Parmi les gardiens qui ont joué un bon nombre de matchs en série, Carey Price est 8e de la Ligue nationale et un pourcentage d'arrêt de 9,24 en série. En saison régulière, c'est définitivement pas le cas, mais en série, plus souvent que non, il est présent, il est là. L'année passée, puis en fait, la situation de cette année est très semblable pour Carey Price, peut-être pas pour l'équipe et peut-être pas pour le niveau de jeu en général, là. Mais c'est très semblable à la bulle l'année passée, vu que Price a joué deux matchs dans les dernières six semaines de la saison. Il y a eu beaucoup de repos. Il est en santé en ce moment. Puis, ce qu'il a démontré contre les Pingouins l'année passée, c'était exactement ce que les Pingouins avaient peur ou avaient une crainte, dans quelque sorte, qu'il fallait jouer contre les Canadiens après la saison qu'ils ont connue avant la pause. Et qu'il fallait battre Carey Price, puis Carey Price il est sorti, il jouait à presque 9,50 pour la série, puis ils ont sorti en quatre matchs. Alors, je pense que Carey Price, il va falloir qu'il joue à un certain niveau pour donner une chance aux Canadiens, puis le niveau doit être assez haut. Là. Je ne dis pas qu'il doit jouer à 9,50, mais il doit jouer à un niveau quand même assez élevé. Là. Il faut qu'il soit le meilleur joueur du Canadien à chaque match. Sans aucun doute, pour que le Canadien ait une chance. Et je m'attends à ce qu'il soit capable de faire. La seule chose, c'est que, tu sais, de tous les joueurs de la Ligue nationale, le gars qui lui donne le plus de troubles, le plus de difficultés, c'est Austin Matthews. Il est loin d'être le seul gardien, où c'est le cas, mais c'est vraiment... Austin Matthews a marqué un bon nombre de buts contre Carey Price. Alors, il va falloir qu'il trouve une solution à ça. Pas non seulement lui, mais l'équipe au complet, il va falloir Il faut rendre ça difficile à Austin Matthews de trouver des zones où il peut décocher son tir. Mais il va falloir aussi que Carey Price trouve une solution là, parce que à date, pendant la carrière d'Austin Matthews, il ne l'a pas vraiment trouvé. Il n'a pas trouvé cette solution-là. Je ne pense pas qu'il y ait un gardien de la Ligue nationale qui ait trouvé cette solution-là. Mais rendu à la situation où on est, c'est primordial que Carey Price le fasse. Puis je pense que c'est là qu'on va voir vraiment la valeur de Sean Burke. Là, il y a quelqu'un de différent qui fait la vidéo avec Price et Allen. Mais peut-être que ça, c'est quelque chose que Sean Burke est capable de faire mieux que Stephen Waite l'a fait. C'est de trouver des solutions, trouver des façons de contrer certains joueurs en particulier et trouver des patterns, trouver des choses sur lesquelles un gardien comme Price peut se fier quand Austin Matthews est sur la glace. Là.
Absolument, c'est vrai, ça va être la clé, on peut pas sortir. Si le Canadien se fait rudoyer par Austin Matthews match après match, pas au plan physique, mais au plan des buts qui sont marqués, il n'en sortira pas. Donc cette confrontation-là, probablement, va éclipser toutes les autres, donc ça va être à suivre. Je vous rappelle tout le monde que vous allez pouvoir écouter notre podcast, nos mini-podcasts, ils seront plus courts que celui qu'on vient de vous servir aujourd'hui, après chaque rencontre du Canadien, à tout le moins dans cette première ronde-là. Donc, ils vont être disponibles tout d'abord en direct sur YouTube, sur la page de The Athletic. Vous pouvez suivre les réseaux sociaux, on vous enverra les liens en temps et lieu. Donc, environ 30-40 minutes après la fin de chaque rencontre, un podcast qui va être à moitié en anglais, à moitié en français, et puis disponible par la suite, les enregistrements, donc sur la plateforme où vous écoutez vos balados diffusion préférées. Donc, merci Arpin. Je te souhaite de belles séries éliminatoires. On espère que ça va être plus long que ce qu'on craint. Disons-le comme ça. Ce serait le fun que le Canadien surprenne les Leafs, puis que, tu sais, dans le fond, là, après autant de temps à se faire dire qu'une fois qu'on est rendu en séries éliminatoires, tout peut arriver, ben j'aimerais ça que tout arrive.
Mais tout ce que j'aimerais, honnêtement, là, tout ce que je veux, c'est d'avoir un match 6. Je veux être dans une centre belle avec 2500 personnes qui crient. Ça, je veux ça. Alors, si le Canadien perd la série, s'il gagne la série, je veux juste qu'il sera à un match 6. Parce que moi, je veux vivre ça, puis je veux que les joueurs vivent ça. Je veux voir du monde dans un amphithéâtre, dans une aréna. Ça ferait du bien. Alors, c'est ma seule souhait de cette série-là. C'est que d'un côté ou l'autre, que ça ne se termine pas en 5 matchs, qu'on sera en 6e match et qu'on est capable de vivre ça, on va espérer ça.
Oui, absolument, c'est bien dit. Puis tu sais, 2500 personnes qui sont capables de faire du bruit comme s'ils étaient 20 000, les fans des Expos ont réussi ça pendant des années. Donc,
pas les mêmes sièges au Centre Bell quand même. Là. Ça change la donne un peu, mais je suis confiant que 2500 personnes vont être capables de faire beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais. Alors, il faut juste espérer qu'on se rend là.
Absolument. Ben, ce sera à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été des nôtres. Et puis, ben, on se retrouve. Hey! Demain!
Ouais!
Bye!